C'est une parenthèse que j'aimerais introduire dans ce culte. Petite parenthèse. Vous vous souvenez du culte du 19 juin ? Certainement. Alors, la fin du catéchisme, les baptêmes, Jean-François Negrini. Eh bien, lors de ce culte, nous avions aussi ici, dans cette chapelle, un groupe d'amis qui ont ceci de commun, c'est qu'ils se sont donné le mot pour naître tous en 1926. Alors, à peu près. Et voilà que dans ce groupe, il y a, je pense, un secrétaire du groupe, c'est une personne que je ne connais pas, mais qui est sûrement secrétaire du groupe, qui a rédigé un petit compte-rendu de leur journée, parce que ce groupe se retrouve une fois par année pour chanter ensemble, pour louer Dieu ensemble. Et voilà, j'ai reçu ce petit compte-rendu, et j'ai pensé que ça vous intéresserait de l'entendre. Je crois que c'est utile qu'on le partage. Alors, ce compte-rendu commence par ces mots. Culte à l'église évangélique de Meyrin, programme chargé. Le pasteur Sewell nous propose d'enlever nos montres. Et suit ensuite le déroulement du culte. Fin du catéchisme avec clichés et témoignages. Message. Trois baptêmes. Monsieur Negrini, missionnaire au Niger, nous fait un exposé avec clichés sur un travail magnifique parmi les enfants handicapés. Sainte Seine. Total. 2h30. En disant ça, je me suis dit, alors qu'est-ce qui va suivre? Attention. Alors je vous lis ce qui va suivre. Un culte riche, dans une église riche de jeunesse, une vraie bénédiction. Un culte riche, dans une église riche de jeunesse, une vraie bénédiction. Alors, ne pensez pas que je dis ceci pour qu'on se vante de quoi que ce soit dans notre Église, mais je pense que ce regard de l'extérieur sur notre communauté, sur nos cultes, mérite d'être partagé afin que nous puissions tous en rendre gloire à Dieu et lui dire notre reconnaissance pour cet état de fait. Une reconnaissance aussi que j'adresse à ceux qui organisent le culte. Il faut oser, hein. Il faut oser. À ceux qui l'ont organisé, il faut avoir de l'audace pour faire un culte qui dure 2h30. Et puis, ils en étaient conscients, puisque le pasteur a dit dès le début, enlevez vos montres. Donc, ils n'étaient eux-mêmes pas surpris. Alors, voilà, je voulais partager ceci avec vous, que nous soyons reconnaissants de ce qui s'est passé, d'avoir ce regard de l'extérieur qui nous encourage. Alors, nous allons suivre notre culte. Et puis André et Bernard vont faire les lectures concernant la prédication. Ce n'est pas nécessaire d'enlever vos montres. Et j'aurai pas cette audace.
Nous lisons dans 2 Rois 6, les versets 8 à 23. Le roi d'Aram était en guerre avec Israël. Quand il tenait conseil avec ses serviteurs et disait « Mon camp sera à tel endroit », l'homme de Dieu envoyait dire au roi d'Israël, l'ennemi, « Garde-toi de traverser cet endroit, car les Araméens y sont descendus. » Et le roi d'Israël envoyait des hommes vers l'endroit désigné par l'homme de Dieu. Il avertissait le roi, qui se tenait sur ses gardes. Et cela arriva plusieurs fois. Le cœur du roi d'Aram en fut bouleversé. Il convoqua ses serviteurs et leur dit, « Ne pourriez-vous pas me faire savoir qui d'entre nous est partisan du roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs dit, « Personne, mon seigneur le roi, mais c'est Élisée, le prophète qui est en Israël. Lui, il est capable de révéler au roi d'Israël les paroles que tu dis même dans ta chambre à coucher. » Alors le roi dit, « Allez, voyez où il se trouve, afin que je l'envoie prendre. » On lui dit, « Il est à Dothan. »
Le roi envoya des chevaux, des chars et une troupe importante qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. Il vit qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Il dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment allons-nous faire ?» Il répondit, « Ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en ces termes, « Seigneur, ouvre-lui les yeux et qu'il voie. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur. Il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu qui entouraient Élisée.
Les Araméens descendirent vers Élisée, qui pria le Seigneur en ces termes, « Frappe cette nation d'aveuglement !» Et le Seigneur les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas par ici le chemin, ce n'est pas par ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous recherchez. » Et il les conduisit en Samarie. Dès qu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Seigneur, ouvre les yeux de ces hommes et qu'ils voient. » Leur Seigneur leur ouvrit les yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie.
En les voyant, le roi dit à Élisée, « Mon père, dois-je les tuer ?» Il répondit, « Ne les tue pas. As-tu l'habitude de tuer ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ? Serre-leur du pain et de l'eau, et ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent vers leur mère. » Le roi leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et ils burent, puis il les congédia et ils s'en allèrent vers leur maître. Les bandes araméennes cessèrent alors leur incursion en terre d'Israël.
Le livre des rois est peut-être une partie de la Bible qu'on lit pas beaucoup, peut-être. C'est mon impression, mais peut-être que je me trompe. En fait, l'ensemble du récit des deux livres des rois, il y a un roi et deux rois, l'ensemble du récit, qui forme aujourd'hui deux livres dans la Bible, mais on ne sait pas pourquoi il y en a deux. Parce qu'en fait, dans la Bible, dans le manuscrit de la Bible hébraïque, ce n'est qu'un seul ouvrage. Bon, c'est un détail qui n'est peut-être pas très important, mais enfin, c'est bon de savoir que c'est une suite. Ces récits donc débutent au moment des derniers jours de David, c'était aux environs de 972 avant Jésus-Christ, et couvrent la période jusqu'au roi de Joachim, fin de deux rois, en 1661, donc ça couvre une période d'un peu plus de 4 siècles. Et on est donc là après le schisme, qui a vu la séparation d'Israël en deux royaumes, le royaume du Nord, qui a conservé le nom d'Israël, le royaume du Sud, beaucoup plus petit, qui s'est appelé Juda. Alors je fais cette introduction sur les deux livres des rois, parce qu'il est important d'être attentif que si ces livres ont une forme historique, donc ils couvrent une période de l'histoire du peuple d'Israël, forme historique, ils ne sont pas, premièrement, des livres d'histoire. Leur contenu les définit plutôt comme une réflexion sur la période du peuple d'Israël au moment où ils étaient gouvernés par des rois. Donc on réfléchit dans ce livre ce qui se passe lorsqu'on est gouverné par des rois. Alors il ne faut pas s'attendre à ce que, sur le plan historique, ce soit rigoureux. Ainsi, la succession des épisodes qui sont racontés ne correspond pas toujours à la chronologie historique. Et ceci explique aussi que ces livres soient rangés dans la Bible parmi les premiers prophètes. L'histoire des rois nous rappelle qu'un vrai roi est celui qui garde les commandements du Seigneur, les coutumes, les exigences, etc. Et il a soin de conserver tout cela. Et il a pour charge essentielle de gouverner le peuple avec sagesse et justice. Il doit même servir le peuple, car ce peuple appartient à Dieu. En outre, le roi doit fidélité au Seigneur. Il doit principalement veiller et pratiquer le vrai culte. Il doit éliminer les cultes idolâtres. Malheureusement, ces conditions sont rarement respectées. Il paraît, je n'ai pas fait le compte moi-même, enfin, je l'ai lu, que 34 fois dans ces livres, on retrouve cette expression assez connue, « Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur ». 34 fois. Beaucoup de ces rois, c'est vrai, ont fait le malheur du peuple en l'entraînant dans l'idolâtrie et en menant des guerres sans approbation de l'Éternel. Voilà pour une petite image des rois, de ce livre des rois. Je pense que la lecture qui vient de vous être faite est peut-être un peu difficile à assimiler d'emblée. Alors, je vous propose de résumer ce récit d'Élisée qui va de Dothan à Samarie. Donc le roi des Araméens, donc Aram c'est la Syrie actuelle. Donc le roi des Araméens, Ben-Hadad, son nom n'y est pas, mais enfin bon, on sait par l'histoire que c'est Ben-Hadad, ce roi part à tout moment en guerre contre Israël. Et à chaque tentative, Joram, qui est le roi d'Israël de l'époque, déjoue les projets de Ben-Hadad. Alors Ben-Hadad se rend compte que quelque chose ne joue pas. Il pense que l'un de ses proches l'a trahi. Il cherche naturellement le coupable. Lorsqu'un de ses serviteurs lui apprend que la raison, c'est Élisée. Élisée, le prophète en Israël, qui en est responsable. Alors il veut capturer ce prophète et il envoie dans ce but ses troupes de nuit à Dothan, la ville où réside Élisée. C'est à 16 kilomètres au nord de Samarie. Le matin de bonne heure, serviteur d'Élisée s'aperçoit que les Araméens encerclent la ville. Il prend peur et avertit son maître. Élisée prie pour que ce serviteur voie l'armée céleste qui les protège. Alors Dieu lui ouvre les yeux et le serviteur voit sur la montagne que la montagne est pleine de chevaux et de chars de feu qui encerclent et qui entourent Élisée. Et les soldats sont entrés dans Dothan, et ils arrivent chez Élisée. Et lorsqu'Élisée les voit, il demande à Dieu qu'il les frappe d'aveuglement. Toute cette troupe est frappée d'aveuglement. Élisée peut ainsi, à leur insu, les conduire à Samarie. C'était la capitale d'Israël de l'époque. Et là, ils sont à la merci de Joram, le roi d'Israël, la merci du roi d'Israël, lui qui n'en revient pas de voir toute cette troupe, et il demande à Élisée, mais est-ce que je dois les tuer ? Élisée refuse et lui donne au contraire l'ordre de les nourrir et de les renvoyer chez eux, sains et saufs, et ceci met fin à la guerre. Pour comprendre ce récit, je vous propose de reprendre chacun des acteurs de ce déroulement et de voir un peu ce que chacun a fait au cours de cet épisode. Ben-Hadad, le roi syrien. Ben-Hadad, c'est un homme qui est actif. Il est tout le temps, c'est lui, donc à l'évidence, qui va tout le temps faire la guerre, qui prend l'initiative des conflits à répétition avec Israël. C'est aussi un homme avisé parce qu'il prend conseil auprès de ses proches, des spécialistes de son état-major, et puis il sait arranger ses troupes pour le combat. Pourtant, bien qu'intelligent, cet homme ne comprend pas comment Joram, à chaque embuscade, est informé de ses projets. Alors il enrage à l'idée que ce qui est décidé dans le cercle restreint de ses plus proches collaborateurs soit immédiatement connu de l'ennemi. Seule possibilité, à son avis, la trahison. la trahison, il y a une taupe parmi ses conseillers. Et puis c'est l'un d'eux qui lui explique que ce qui est inimaginable à ses yeux, c'est Élisée, le prophète, qui est en Israël. Et il est capable de révéler au roi d'Israël les paroles que tu dis de ta chambre à coucher. Bonjour l'ironie. Ce conseiller précise encore qu'Élisée est à Dothan. Ben-Hadad envoie son armée le chercher. Ben-Hadad, un homme intelligent, oui, mais qui ne se remet pas en question. Il ne perçoit même pas l'ironie des propos de son serviteur. Il est enfermé dans sa logique de guerre. Il se berce aussi d'illusions, il faut le dire. Il s'imagine pouvoir résoudre son problème en éliminant le prophète, et puis il se sera liquidé. On remarquera l'inconséquence de ce comportement, car en fait, il aurait dû se méfier qu'Élisée y allait être averti. Qu'Élisée serait, cette fois encore, informé de son projet, puisque c'est toujours Élisée qui renseignait le roi d'Israël. Il aurait dû s'en méfier. Ben-Hadad, un homme intelligent, oui, mais dont l'aveuglement le conduit à la démesure. Pensez donc, des chevaux, des chars, une troupe importante. Pourquoi ? Pour aller saisir un homme, puis un religieux, un homme qui n'est pas armé, un homme qui n'a pas du tout la réputation d'être chef de guerre ou un Goliath. Le ridicule ne tue pas. Ben, à l'époque, c'était déjà vrai. Alors Ben-Hadad enrage et c'est le désarroi chez lui, c'est le désarroi de celui qui n'a que des armes à opposer à un phénomène qui lui échappe tout à fait. Comportement d'un homme qui est complètement déboussolé. Quant à Joram, ben lui, il va de succès en succès. Il tient l'ennemi en échec à chaque nouvelle menace. Évidemment, c'est grâce au service du prophète. En fait, il est si bien habitué à être toujours vainqueur lors des accrochages contre les Araméens, mais ce faisant, il n'assume plus vraiment ses responsabilités de roi. Il se contente tout simplement d'attendre les conseils du prophète. Tout comme Ben-Hadad, Joram est enfermé dans un mode de fonctionnement qui est devenu une dépendance. Un mode de fonctionnement indigne du roi d'Israël, car c'est lui le chef de l'armée. En outre, à aucun moment, on ne le voit prendre l'initiative de consulter l'Éternel. L'autorité qu'il devait exercer en tant que roi a de fait passé dans les mains d'Élisée. Alors, il ne faut pas trop s'étonner. Lorsqu'Élisée arrive à Samarie avec le contingent entier d'ennemis que le prophète lui livre là, comme sur un plateau, il ne faut pas s'étonner que Joram soit complètement déboussolé, qu'il ne sache pas que faire de cette troupe, ni quelle décision prendre. D'où sa question à Élisée, les tuerai-je ? Encore une fois, il questionne Élisée au lieu de décider lui-même. Et son étonnement doit être à son comble lorsqu'Élisée lui donne l'ordre de nourrir ses gens et de les laisser rentrer tranquillement chez eux. Grâce au prophète, le massacre est ainsi évité et la guerre prend fin. Dans ce récit, il y a un homme qui a eu la peur de sa vie. « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» C'est le cri du serviteur d'Élisée, en constatant que la ville est encerclée de l'armée araméenne. C'est vrai que le danger était bien réel, parce que Dothan était une ville non fortifiée et qui n'avait pas de garnison. Alors la panique du serviteur, est-ce qu'elle est le signe que le serviteur ait tout à coup douté des capacités de son maître ? Mais cet homme pouvait-il imaginer qu'Élisée n'ait pas été averti de la présence de l'ennemi? Le prophète aurait-il eu une défaillance? Serait-il resté endormi au point que de bon matin, parce que l'armée est arrivée pendant la nuit, et c'est de bon matin que le constat, que le serviteur fait son constat, que de bon matin, le prophète n'aurait pas encore pris son service, ou que cette fois, il n'aurait pas su anticiper le mouvement de l'armée araméenne. On peut comprendre qu'en tant que serviteur d'Élisée, cet homme ait pris l'habitude de se croire vraiment à l'abri de tout danger. Mais cette fois, son maître lui a paru inconscient d'un danger pourtant imminent. Élisée commence alors par rassurer son serviteur, « Ne crains rien, ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont pour eux. » Et le prophète s'est-il alors rendu compte que sa parole n'avait pas pleinement rassuré son serviteur? Il prie alors l'Éternel de lui ouvrir les yeux pour qu'il voie l'invisible, c'est-à-dire une autre armée. La montagne était pleine de chevaux et de chars de feu qui entouraient Élisée. Pour les soldats araméens, on peut dire que le déplacement à Dothan, ça a été déplacement de Dothan à Samarie, ça a été leur journée. Rendu aveugle par la prière d'Élisée, devenu dépendant au point de ne pas se rendre compte qu'il marchait en direction de Samarie, une distance de 16 kilomètres, arrivé là à nouveau sur la prière d'Élisée, ils réalisent qu'ils sont perdus. Mais, encore grâce au prophète, ils sont épargnés. Ils sont épargnés et sur ordre de Joram, Joram n'avait pourtant pas l'habitude de leur faire des cadeaux, sur ordre de Joram, ils sont restaurés et renvoyés libres à la maison. Alors pour clore ce tour d'horizon des acteurs du récit, encore deux mots sur Élisée. Tout d'abord, il faut remarquer qu'Élisée est le seul personnage du récit qui est mentionné par son nom. J'ai naturellement parlé de Joram, de Ben-Hadad et de Bernard qui vous a remarqué que le serviteur, c'est certainement Géasi, dont il est parlé dans d'autres récits. Mais donc on peut reconstituer, savoir qui il s'agit, mais dans ce récit-là, leur nom n'est pas mentionné, seul Élisée est mentionné par son nom. En effet, les rois, donc n'ont pas de nom. En outre, le prophète est le seul à ne jamais être surpris par les événements. Au contraire, il maîtrise toujours la situation et il fixe même le degré de compréhension et de vision des autres, qu'il s'agisse de rois, des rois, des soldats ou du serviteur. Alors ces remarques permettent de dire que l'auteur du récit donne donc à Élisée une place tout à fait centrale dans son récit. Ce qui est frappant, c'est le pouvoir d'Élisée. Une simple prière, ça nous fait envie, hein, une simple prière et l'Éternel accomplit ce que le prophète demande. L'aveuglement des soldats araméens est peut-être le plus bel exemple et il permet de mesurer à quel point le miracle était important. Mais la véritable dimension de ce récit réside dans son aspect prophétique. En effet, ce prophète au-dessus de la mêlée, et dont les prières à l'Éternel sont toujours exaucées, son rôle central dans le récit permet de dire qu'Élisée préfigure la personne du Christ. Et ceci est confirmé par toutes sortes de parallèles qu'on pourrait faire dans l'histoire d'Élisée avec l'histoire de Jésus. Alors, je vous cite un exemple qui correspond à ce passage-là. Lorsqu'Élisée ouvre les yeux de son serviteur pour qu'il voie l'armée céleste qui le protège, cela fait penser, bien sûr, à l'épisode où Jésus, lors de son arrestation, affirme à Pierre, Penses-tu que je ne puisse faire appel à mon père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges ? Donc, c'était similitude de l'invisible pour Pierre, pour Jésus, comme pour Élisée. Alors, après ce tour d'horizon des acteurs du récit, que faut-il en retenir ? Question importante, car c'est à partir du moment où l'on peut rattacher notre propre histoire au récit biblique que ce dernier prend sa pleine signification pour nous. C'est important parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes constamment harcelés par le malin qui cherche à nous tenter, à nous faire tomber, à nous faire douter. Nous pouvons donc nous poser la question, en présence de Ben-Hadad et son armée, est-ce que je suis un serviteur ? Est-ce que je suis un Joram ? Est-ce que je peux être un Élisée ? Un serviteur, c'est un habitué, un proche même du maître. Il vit avec lui, il lui fait entièrement confiance, il lui a toujours fait confiance. Il n'a jamais été déçu, il a même vu des miracles. Oui, il y a un type de confiance fondée sur l'habitude. Une confiance qui a quelque chose de servile. Une confiance qui suffit tant qu'elle rend service sans exiger d'engagement. Confiance qui ne met pas en route, mais une confiance qui est spectatrice. Cette confiance-là laisse désemparer lorsque l'ennemi sort la grosse artillerie, surtout pour celui qui est dans une ville mal protégée. Le serviteur, c'est une confiance limitée à ce que l'on voit, une confiance fragile qui ne protège pas de la panique et qui laisse s'installer le doute. Toutefois, le serviteur n'a pas été rejeté par son maître. Au contraire, son maître est venu à son secours. En quelque sorte, le maître a honoré la fidélité du serviteur. Il l'a rassuré par cette parole « ne crains rien ». Et comme si cette parole était difficile à croire, compte tenu des circonstances, le maître prie encore l'Éternel de lui ouvrir les yeux pour qu'il voie l'invisible. Une vision dans l'image, l'armée céleste, correspondait pleinement au danger qu'il menaçait, l'armée ennemie. En ce qui concerne la vision, en fait, question de vision, il y a deux excès possibles. Le premier excès, ce serait de penser qu'une vision est donnée quotidiennement lors de chacune de nos difficultés. Le second excès serait d'aboutir à leur négation pratique du fait de leur rareté. Au fond, l'important est de rester conscient des réalités invisibles. Et si en pareille circonstance, la vision qu'a eue le serviteur d'Élisée ne nous est pas donnée à nous, la parole rassurante du prophète reste vraie pour nous. L'important n'est pas de voir l'armée céleste qui nous protège, mais bien de savoir qu'elle existe et de faire confiance à celui qui la dirige. Dans l'exemple cité de Pierre, Jésus lui a parlé des 12 légions d'anges, mais il ne les a pas vues. Elles n'ont pas eu à intervenir. Est-ce que je suis un serviteur ? Tout cela m'interpelle et m'interroge. Est-ce que je suis un Joram ? Joram, c'est l'homme toujours satisfait d'avoir Élisée. Il prophète au bon conseil. Il l'écoute toujours. Mais ce faisant, il attend simplement de voir ce qui va se passer. Pas besoin de réfléchir, pas besoin de prendre des initiatives et de prendre des risques. L'état de guerre qui se prolonge, bof. Tant qu'on est vainqueur, C'est pas mal. Et puis le fait d'être vainqueur, et ce serait même le signe positif d'un bon comportement, puisqu'on s'en sort toujours. Sauf que survient une situation non habituelle et faute de repères, c'est le désarroi. C'est oublier qu'une guerre, même gagnée, produit toujours des souffrances et des dégâts. Et puis, comme on dit souvent, gagner une guerre, ce n'est pas encore gagner la paix. Négliger ses responsabilités, se satisfaire d'un pialer, cette confiance-là n'est pas vraiment un attachement à Dieu. Je dirais que c'est une confiance de profiteur. Et la question « Mon père dois-je les tuer ?» est révélatrice du désarroi de Joram, qui n'a jamais vu qu'un prophète, ici Élisée, seul et non armé, puisse prendre en otage toute l'armée adverse. Sa proposition de les tuer montre à quel point il est surpris, car il ne voit pas d'alternative à la situation. La tentation doit être forte de profiter de l'occasion pour se débarrasser à peu de frais de l'armée adverse. Or, la réponse d'Élisée ouvre une toute autre perspective. En effet, par la réponse que donne le prophète, Dieu dit en substance « Je fais grâce, ces prisonniers ne seront pas tués. Et comme ma grâce est infiniment plus grande que celle des hommes, ces prisonniers auront la vie sauve, ils ne resteront même pas esclaves, ils seront libérés pour rentrer chez eux. » Cerise sur le gâteau, avant de les renvoyer à la maison, vous leur donnerez du pain et de l'eau. Belle démonstration que tuer ces otages ne sert à rien, sinon à entretenir la haine, alors que la paix s'obtient par la grâce. Dieu déjoue donc l'attitude de profiteur de Joram, et par la liberté donnée et la paix qui en résulte, il fait éclater sa grâce et sa miséricorde. Pour conclure, en quelque sorte, revenons à la question posée en présence du harcèlement du malin, suis-je un serviteur, un Joram ou un Élisée ? Je suis appelé à aller plus loin que la confiance spectatrice du serviteur. La promesse ne craint rien est rappelée de multiples fois dans la Bible. Et selon le commentateur, cette promesse est le premier mot de la grâce. Avec ou sans vision, cela n'est pas l'essentiel. Je suis appelé à faire confiance au chef de l'armée céleste, non seulement avec les yeux du corps, mais surtout avec les yeux de la foi. L'exemple de Joram, il m'invite aussi à aller plus loin que la satisfaction d'être vainqueur dans les petits accrochages. En effet, assumer ses responsabilités, c'est arriver à faire grâce dans les conflits, en quelque sorte, devenir collaborateur de Dieu en faisant grâce. Nous sommes appelés à faire grâce au nom du Christ. Joram a-t-il compris tout cela? En tout état de cause, alors qu'Élisée lui a demandé de donner du pain et de l'eau aux soldats araméens, il leur a servi un grand repas. Dans certaines versions, il est question de festin. Il ne s'est donc pas contenté du service minimum, mais il a agi envers ses soldats comme on le ferait envers des hôtes de marque. C'est le banquet de la grâce. Enfin, quant à être un Élisée, c'est évidemment un objectif difficile à atteindre, puisque le prophète préfigure le Christ. Ces interventions doivent nous ramener à l'essentiel. Notre prière doit viser à ce que Dieu nous ouvre les yeux, ceux de la foi, et nous accorde la grâce de rester au-dessus de la mêlée. Et selon une prière bien connue, être des ouvriers de paix. Amen.